Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
Et de Morvren.
Bonjour tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du fan remake de KOTOR. On enchaînera ensuite sur deux petits jeux qui ont l'air très intéressants, à savoir Fury et Divide. Nous parlerons également d'un certain Urban Empire, hein, Morvren a insisté, donc je le laisserai vous présenter la chose. Nous évoquerons ensuite les projets de CD Projekt. Désolé. on parlera de l'animation d'un MMO, on évoquera du nouveau dans Rocket League. Du côté d'Electronic Arts, on se penchera quelque peu sur Mirror's Edge Catalyst. Et enfin, Morvren, tu nous parleras de la fermeture de Lionhead.
Ouais.
Voilà, voilà. Allez, on commence. Morvren. Par le projet que tu nous as bassiné avec cette semaine.
Oh oui, il est pas de Marseille le tien aujourd'hui.
pas du tout, mon cher. C'est donc le remake fait par des fans de KOTOR. Et ma foi, ça a l'air fort joli tout ça.
Oui, alors évidemment, on en parle avant que ça soit annulé, hein. Et parce que la semaine dernière, on a quand même parlé d'un fan remake qui avait été annulé, donc voilà, c'est...
Bon, on a parlé d'un fan remake aussi la semaine dernière qui marchait, donc on sait jamais,
voilà.
Un peu d'optimisme, bordel.
Ce qui est assez marrant, c'est que sur les news concernant ce fan remake de KOTOR, donc KOTOR 1, hein, pas KOTOR 2, tous les commentaires, en fait, parlent de « Oui, bon, bah il va être shut down, hein, c'est pas grave. Allez, à bientôt. »
Salut, hein.
Bon, alors, il faut savoir que donc c'est une équipe de fans qui s'appelle la team Apeiron, je crois, et qui a décidé donc de refaire Star Wars Knights of the Old Republic, pour dire son nom complet, qui est un jeu, voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un jeu qui est excellent.
Même si je préfère le 2 personnellement, mais c'est une affaire de goût.
Parce que Obsidian au scénario, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et alors par contre, le problème, c'est que pour les nouvelles générations qui ont envie de jouer à KOTOR, c'est un peu compliqué de se mettre dans l'univers visuel du jeu parce qu'il est assez bon, c'est très anguleux, quoi.
C'est de la 3D old school, on va dire.
Voilà. C'est de la 3D old school, et donc effectivement, c'est vrai que un remake de ce jeu, voilà, c'est pas de refus. Et en tout cas, ça permettrait à des gens, des nouveaux joueurs de se lancer dans la série et de comprendre à quel point c'est bien. Alors évidemment, un fan remake, c'est la meilleure solution. On a une petite visite en vidéo que je vous invite à aller regarder parce que c'est assez impressionnant visuellement, en fait. On a pas mal de zones différentes, donc que ça soit la cité basse de Taris, la cité haute de Taris ou la ville d'Anchored. Et franchement, c'est c'est fait avec l'Unreal Engine 4, ça se voit, et ça a une toute autre ambiance que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Moi, je suis très intéressé de voir un petit peu où ça va nous emmener, parce qu'évidemment, là, c'est... Enfin, ça a l'air quand même assez avancé, quand même, hein, parce que si tu regardes les décors, ils m'ont l'air terminés. Donc, évidemment, il y a plein d'autres choses à faire au-delà de ce mode-là, mais c'est assez intéressant, parce que pour le coup, on n'en a pas entendu parler il y a si longtemps que ça.
Oui, alors par contre, il y a une spécificité dont tu n'as pas parlé, Morvren.
Ouais.
C'est que c'est la première personne.
C'est pas la première personne pour nous faire une sorte de visite des lieux du jeu, en fait? Ou après?
Ben justement, on sait pas. Enfin, en tout cas, moi, sur l'article de VG247, il y a écrit « Vous remarquerez que le jeu est en première personne au lieu de la troisième personne. »
Ouais, oui.
Mais ils te disent pas si c'est spécifique à la visite des lieux ou si c'est le remake qui sera comme ça.
Ouais, on sait pas encore.
Alors, il me semble que j'avais lu qu'au final, ce serait comme ça. Hein. Mais bon, après, je parle d'un article que j'ai lu comme ça en diagonale. Donc bon,
d'accord.
À prendre avec des pincettes. Dans tous les cas, moi, je vous avouerai que si c'est vraiment à la première personne, ça m'attire pas du tout.
Et pour quelle raison?
Ben, pourquoi? Parce que déjà, je pense que d'un point de vue système, ça va poser de gros soucis. À savoir que KOTOR, bon, c'est un jeu qui a été conçu pour être joué avec une escouade. Donc dans ces cas-là, la vue à la troisième personne me paraît bien plus adaptée qu'une vue à la première personne. Et ensuite, KOTOR, c'est un jeu où tu crées ton avatar, tout ça. Je veux dire, je vois pas l'intérêt de créer un avatar si c'est pour au final ne pas le voir, quoi, en fait. Je pense que ça participe de l'identification du personnage, etc. Bref. Bon, après, je dis pas que c'est inintéressant non plus, hein. Je veux dire, pour le coup, c'est un vrai remake, quoi. Mais je sais pas, ça m'attire moins comme ça. Mais après, bon, il y a peut-être un peu la nostalgie qui parle aussi, hein.
Oui, je pense, ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, à savoir évidemment que le mode ne sera pas payant au moment de sa sortie, mais que l'équipe accepte les dons, enfin acceptera les dons d'ici quelques mois.
De toute façon, Tyran, je te rassure, tu n'y joueras pas en vue FPS, de toute façon.
De toute façon, je pense qu'on n'y jouera pas trop tout court, parce
que... Bah, non, mais c'est pour ça que je te dis ça.
Voilà. Autre chose à ajouter, mon cher Morad? Nous passons à la
non,
suite.
Non, je pense qu'on a fait le tour.
Ok. On va enchaîner sur un certain Fury. Alors, c'est assez particulier à expliquer que concept. En gros, c'est un espèce de croisement entre un twin stick shooter et un beat'em all. Sauf que ce serait un jeu, en fait, où t'as pas d'ennemis de base, où tu te bats que contre des boss, en fait.
Ouais.
Bon, alors, outre le fait que la direction artistique peut diviser, enfin, moi, je suis totalement fan, mais voilà.
Ouais.
Je suis absolument fan du gameplay, parce qu'en gros, l'idée du concept, vraiment, c'est que t'as des maps en hexagone, c'est une arène en hexagone, qui est elle-même divisée en petits hexagones, en fait, qui peuvent se transformer en piliers, qui vont émerger du sol, comme ça, au fur et à mesure que le combat contre le boss avance. Et ces piliers, en fait, tu vas pouvoir les utiliser pour t'abriter, mais le boss aussi, il va pouvoir les utiliser, par exemple, pour t'enfermer dans un endroit, réduire ta mobilité, etc. J'adore, enfin, c'est super dynamique.
Ouais.
Le seul truc qui me fait peur, c'est que comme c'est un jeu qui va être basé essentiellement sur les combats de boss, quid de la durée de vie, parce que je pense que les boss, à bout d'un moment, pour se renouveler en termes de game design, ça va être compliqué, quoi. C'est la seule chose qui me fait peur, mais sinon, enfin, la musique, elle défonce, je trouve. Feature de Jean-Michel Jarre, tu vois. Je suis absolument saucé.
Moi, je suis très impressionné par la variété de patterns du seul boss que j'ai vu, en tout cas, dans le trailer.
Ouais.
Parce que pour le coup, oui, effectivement, c'est que des combats de boss, mais les combats de boss, ils m'ont l'air d'être assez longs, quand même. Et à mon avis, ça peut être très intéressant à jouer, et je pense que si tu veux faire... le boss en une seule fois, va falloir t'y reprendre.
Ouais, parce que là, la vidéo, enfin, de gameplay qu'ils ont montré, elle dure au total 9 minutes.
Ouais.
Mais c'est un combat où, enfin voilà, le mec il gère, quoi. Donc ah, je me dis, si tu galères, bon, ça, je pense que ça peut durer longtemps, quoi.
Ouais.
Parce que je précise, il y a des passages en mode bullet hell. Hein, t'as plein de trucs qui arrivent sur l'écran et faut les éviter, quoi. Ça, enfin, je veux dire, moi, je suis très mauvais sur ce genre de choses, hein. Donc, après, je pense que les spécialistes du genre sont pas franchement déstabilisés. Mais pour les gars comme moi, je pense que ça va être compliqué, quoi.
Ce qui est cool avec ce genre de jeu-là, c'est qu'en fait, on voit des combats de boss qui ont complètement disparu du jeu vidéo, en fait. Tu vois, des boss avec des patterns comme ça... qui change au fur et à mesure du combat, un peu à la Shadow of the Colossus. Il faut que, tu vois, le combat soit intense, etc. Et que quand t'as battu ce putain de boss, tu dis « Ah putain, c'était chaud, mais j'ai vraiment kiffé. » Et le gameplay a l'air assez nerveux quand même. Le personnage, il bouge vite, etc. Et après, moi, le truc où je suis un peu moins fan, c'est la direction artistique. J'aime pas trop les couleurs, mais après, ça, c'est juste un coup personnel. Mais par contre, j'aime bien le design du boss et... du personnage, à voir quand ça sortira. Parce qu'en fait, là, le combat, il se renouvelle au fur et à mesure. Mais si après, tous les autres combats de boss se ressemblent, ça sera un petit peu raté. Mine de rien, faire des combats de boss différents les uns des autres, c'est quand même assez compliqué.
Et en voyant la vidéo, moi, je me suis dit, un jeu Dragon Ball avec ce gameplay, ça serait cool.
Ouais, mais Dragon Ball, ils sont sous-traités à des studios de merde, alors qu'ils ont CyberConnect, qui pourraient très bien faire un jeu Dragon Ball hyper joli, tu vois, fidèle aux animés.
Ouais. Non mais surtout là en plus t'as des passages genre où il renvoie certaines attaques au boss et tout, j'ai fait putain mais c'est trop Dragon Ball ça, c'est
ouais,
trop cool.
Et en fait, tu vois, ce qu'on a pas dit tu vois, il y a une espèce d'aspect shoot 'em up un peu dans le jeu.
Ouais. Oui, c'est ça.
Non mais franchement ça c'est parce que c'est un boss qui tire des rayons laser et je trouve l'idée plutôt bien pensée en fait aussi.
Voilà. On va enchaîner ensuite sur un autre petit jeu, ma foi, qui a l'air fort sympathique, ça s'appelle Divide. Alors là, beaucoup moins dynamique, hein, c'est un jeu en vue isométrique qui fait un peu me penser à Stasis, qui est sorti il y a pas très longtemps, enfin l'année dernière. C'est-à-dire un jeu vraiment avec une ambiance, alors pas horrifique pour le coup là, mais un peu mystérieuse. Il y a l'air d'avoir un scénario à 1984, tu vois, ce genre de choses. Alors en gros, le concept du jeu vraiment, c'est que c'est un jeu en vue isométrique où tu vas traverser des espèces de donjons en mode twin stick shooter là aussi, bon, beaucoup moins dynamique, et aussi où tu pourras faire de l'infiltration. Alors par contre, là où je suis beaucoup plus dubitatif par rapport au précédent jeu, c'est que en fait, moi je me dis, un twisting shooter, ça marche quand tu as des décors assez dégagés. Là quand même, je me dis, les décors sont super chargés, quoi.
Ouais.
En termes de lisibilité, j'ai très peur pour ce jeu-là, quoi. C'est-à-dire
c'est très étroit aussi.
Ouais, c'est très étroit. Mais du coup, tu sais, en termes de jouabilité, j'ai peur que très souvent on se mette à tirer sur des murs, en fait. Parce que c'est très très chargé, quoi. Mm-hmm. Du coup, l'aspect shooter du jeu, on va dire, m'a pas convaincu. Au-delà de ça, il y a un aspect infiltration qu'on n'a pas du tout vu, donc on verra bien, mais j'espère là aussi, enfin, tu veux un jeu d'infiltration vue isométrique, comment ils vont gérer ça, tu vois, c'est assez compliqué. Par contre, vraiment, pour moi, ce qui m'a saucé, c'est l'aspect visuel et l'ambiance, quoi. Très clairement, enfin, il y a un truc qui se dégage. Alors après, évidemment, c'est éminemment subjectif. Ouais. Je précise que c'est un jeu qui sortira sur PS4 et PC. Mm-hmm. Un peu comme, d'ailleurs, Fury, c'est la même chose. ATH, toi qui as une PS4, est-ce que ça pourrait t'intéresser ou pas du tout?
Ouais, enfin, après, je suis pas fan du genre twin stick shooter. J'en préférais la gameplay à la Resident Evil à l'ancienne. Mm. 1, 2, 3, là. Mm-hmm. Et quand je vois la vidéo, moi, au début, j'ai pensé que c'était un peu un jeu dans ce genre-là. Mais c'est vrai que l'atmosphère, l'ambiance, ça a l'air assez cool.
Très épuré, futuriste, tout ça.
Ouais, mais après voilà, c'est vraiment au niveau du gameplay que ça pêche un petit peu pour moi. Après, ça se trouve que à jouer, ça sera génial, quoi. Mais pour le coup, c'est le genre qui m'attire pas trop, quoi.
Bon, après, entendons-nous bien, en termes de DA, d'ambiance, c'est pas non plus original pour un sou. C'est juste que ça a l'air chouette. Et c'est un jeu que je vais surveiller. Voilà, voilà. Mandren.
Oui.
Tu vas nous parler d'un certain Urban Empire.
Mmh.
Qu'est-ce que c'est? Par qui c'est fait? L'historique du truc, tout ça. Présente-nous.
Alors, donc Calypso Media, c'est donc l'éditeur de la série des Tropicaux.
Mmh.
Donc, il se lance dans une nouvelle licence, on va dire, qui s'appelle Urban Empire. En gros, c'est un mix entre un véritable city builder comme SimCity ou City Skylines et t'as vraiment un aspect gestion macro à la Crusader Kings ou à la civilisation. En fait, tu incarnes un maire, une génération de maires qui va donc s'occuper d'une ville durant 200 ans. Donc, tu fais partie d'une dynastie. Donc, que tu choisis, je crois qu'il y en a 5 ou 6 au début du jeu. Et chacune de ces dynasties a 5 ou 6 personnages, avec chacun ses traits différents. Et donc sa politique différente, donc tu vas avoir les gens qui font tout pour développer les droits des citoyens. Tu as des gens qui vont être plutôt, on va dire, des FDP. T'as vraiment des perspectives assez différentes sur la gestion de ta ville. Donc ça, en fait, l'objectif pour toi, ça va être évidemment de planifier ta ville pour les 200 ans à venir. Donc avec les infrastructures, les quartiers, les différentes commodités dont tes citoyens auront besoin. Et en plus de ça, évidemment, vu que tu joues une dynastie sur 200 ans, il va falloir faire en sorte de te faire réélire. Tu peux très bien le faire en mode vertueux et donc donner aux citoyens l'envie de revoter pour toi. Ou alors, tu l'as fait en mode maire véreux et tu achètes des votes. Voilà, les petites magouilles politicardes telles qu'on les connaît un petit peu dans la vraie vie. Et donc, c'est un petit peu ça, le mix Urban Empire, en fait. C'est vraiment la gouvernance d'une ville, pas seulement dans sa planification. Tu as vraiment un volet politique qui s'ajoute à Urban Empire, et c'est ça qui m'a intéressé là-dedans.
Ça a l'air prometteur, quoi.
Ça a l'air plutôt sympa. Le seul bémol que j'ai actuellement, en fait, c'est que ça varie pas spécialement du look qu'on a habituellement dans un city builder, quoi. C'est pas...
Ah oui, c'est vrai que la direction artistique, elle est assez, bon, quelconque.
C'est très
quoi.
Classique, quoi. Et puis, dans les volets un peu macro, ça ressemble vachement à ce que peut proposer un Crusader Kings ou ce que peut proposer un Civilization.
Et encore, Crusader Kings, je t'avoue que j'ai un doute parce que c'est quand même super complexe.
Oui, je te parle purement visuellement, pas concrètement ce qu'il y a à l'intérieur, mais sinon, visuellement, tout ce qui se passe en 3D, donc la planification de la ville, c'est... Voilà, ça manque un petit peu du charme que peut avoir Tropico, par exemple, ou de le côté un peu brillant, éclatant que peut avoir un City Skylines ou un SimCity. Pour l'instant, je trouve ça assez terne, en fait.
Ouais, mais après, l'aspect politique qu'il rajoute par-dessus, ça peut faire que le jeu, en fait, se démarque des concurrents, déjà, parce que SimCity, tout ça, il y a pas tout cet aspect qui est pris en compte. Et surtout, Tropico, c'est une série qui est connue pour tous ces choix que tu fais, par exemple... avec Tropico 5, etc. Tu peux jouer un dictateur d'une république bananière, ouais, etc. Et ça, c'est le petit plus de Tropico qui fait que je préfère ce type d'approche-là plutôt qu'un SimCity où tu construis ta ville. Tu vois, après, c'est une question de feel, de feeling et de goût de chacun.
Pour moi, c'est plus une question de genre, en fait.
Ouais, voilà.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Et là, ça mélange un petit peu des deux genres, donc pour moi, qui aime bien l'aspect gestion, mais sans plus, ce petit côté politique derrière, faire des coups en traite, ouais, etc., ça peut m'amuser un peu plus, tu vois.
Puis ça rajoute un aspect narratif au jeu que les city builders n'ont pas, en fait. Ou alors, les city builders, c'est toi qui l'ajoutes, cet aspect narratif,
ouais, mmh,
concrètement. C'est toi qui l'inventes, on va dire. Là, pour le coup, il est déjà à l'intérieur du jeu, et ça peut être très intéressant, à mon avis, à jouer, et du coup, plus dynamique, à mon avis.
Et en plus, donc, il y a l'aspect city builder qui, je pense que toi, te sauce complètement.
Ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
Bon, ATH.
On va parler de CD Projekt.
Ouais, CD Projekt qui a dévoilé en gros sa roadmap hein, dans les années à venir,
ouais,
que ce soit donc pour le studio de développement ou pour Good Old Games.
Bon, alors CD Projekt là, cette année ils vont sortir la deuxième extension de Witcher 3 Blood and Vine.
Mm-hmm.
Ils ont aussi un nouveau jeu qui doit sortir cette année avec un type de format qui n'a pas été encore fait chez ce studio là. Donc.
Alors je sais pas pour vous, moi je trouve ça étonnant parce que, enfin. En gros, ils ont un tout nouveau concept, ils ne en ont pas du tout parlé, ça va sortir cette année. Alors, non pas que ça me déplaise, hein, mais j'espère qu'ils vont mettre le paquet, parce que
moi, je vois bien
c'est quand même assez couillu, quoi.
Le genre de jeu à la Telltale, un jeu épisodique.
Ouais, mais alors à ce moment-là, c'est pas un truc que personne n'a jamais fait avant.
Non, mais c'est pas que personne n'a jamais fait avant, c'est que le studio n'a pas fait.
Ah, et oui, c'est que le studio n'a pas fait, mais il y a aussi,
il y a aussi marqué
que ça n'a jamais été fait auparavant.
Voilà. Bon après, les studios en général,
oui,
ils ont tendance à grossir le trait.
Ils ont la mémoire courte.
Ils peuvent faire, je sais pas, un FPS épisodique, ça n'a jamais été fait. Tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Après, donc, ils ont aussi plusieurs plans pour les années à venir. Par exemple, ils souhaitent sortir Cyberpunk 2077 en 2017.
À partir de 2017, hein, parce que c'est entre 2017 et 2024, ils se donnent la marge.
entre 2017 et 2020, les projets, c'est aussi de sortir un nouveau AAA RPG, tel que Witcher 3. Sortir des nouvelles franchises et aussi développer tout ce qui est l'aspect un petit peu multimédia de leur licence. Donc c'est-à-dire peut-être faire des séries, enfin, ce genre de choses-là quoi que vous connaissez très bien dans l'univers du jeu vidéo.
Un film aussi, pourquoi
ouais,
pas.
Peut-être. Après, ça serait compliqué qu'ils sortent un film sur The Witcher vu que c'est pas eux qui détiennent la licence, par exemple.
Bah, surtout, je crois qu'il existe déjà en plus le film.
Oui,
il me semble.
C'est une série polonaise.
Ah, c'est une série.
Ouais. Et puis surtout les promesses qui ont été faites par rapport à Cyberpunk 2077, c'est-à-dire que le jeu, si vous écoutez les développeurs de CD Projekt, sera plus beau, plus long. En fait, c'est la musique des Daft Punk, quoi, si vous voulez.
Harder, better, faster, stronger.
Voilà, c'est ça. Donc c'est le jeu plus, tu vois, on t'en rajoute.
Alors moi, ce qui me fait peur, si tu veux, c'est que il s'éparpille en fait. J'ai l'impression, quoi, c'est-à-dire que alors ouais, on a un projet cette année et tout, et puis là, on a Cyberpunk derrière qui va enchaîner, qui est apparemment un projet absolument gargantuesque. Bon alors certes, sur Cyberpunk, il faut voir une chose, c'est que ils ont plus les outils qu'ils avaient à développer sur The Witcher 3, en fait. Parce que sur The Witcher 3, ils ont dû développer tous les outils qui leur ont permis de créer le monde du jeu. Tu sais, par exemple, les outils qui te permettent de travailler en temps réel sur une map, tu vois, et de créer les quêtes en temps réel dessus et tout. Et quand un mec modifie le truc, t'as tous ses collègues qui voient la modif et tout. Enfin, ça, c'est des outils vraiment complexes qui sont longs à développer. Et ça, maintenant, ils les ont. Bon, du coup, ils ont plus de temps à perdre là-dessus, quoi, entre guillemets. Ça dégage du temps pour faire autre chose, mais quand même, je me dis que j'espère qu'ils vont pas avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi.
Ouais, mais après aussi, il faut pas oublier que c'est un studio qui était pas un très gros studio par rapport aux autres, mais qui veulent quand même arriver à terme jusqu'à 800 employés, et surtout que The Witcher 3, c'était un succès, donc ça leur permet d'embaucher et d'avoir une équipe en conséquence par rapport à ça.
D'ailleurs, The Witcher 3 qui s'est plus vendu sur PC que sur console.
Ouais, mais ça, c'est une très bonne nouvelle, d'ailleurs. Je reviens sur le jeu de 2016. Je me rappelle un petit peu de The Witcher Battle Arena. Parce qu'au final, qui était sorti en 2015 avant Witcher 3.
C'était quoi ça, Witcher Battle Arena, je
crois? Bah, c'était un espèce de... comment ça s'appelle? C'était un MOBA?
C'était un jeu de cartes, non?
Oui, non, c'est ça, c'était un MOBA.
D'accord.
Ça se présente comme un MOBA sur mobile.
Tu vois, ça m'a tellement marqué, je l'ai oublié.
Voilà. Ils avaient développé un peu ça, juste avant la sortie de Witcher 3. Et du coup, moi, je serais pas surpris que ça soit un jeu de cette ampleur-là, en fait, qui sorte en 2016, pour le coup. Parce que ça m'étonnerait vraiment qu'on ait une...
Un gros projet, quoi.
Un énorme projet.
Alors, un énorme projet dont personne n'a entendu parler. Oui, voilà. Il n'y a pas une suite du tout, tu vois.
Je le vois vraiment comme un espèce de test de format, en fait. Mm. Parce que, voilà, CD Projekt, ils ont certes Cyberpunk 2077, mais est-ce qu'ils vont réussir à emmener leur fanbase de The Witcher 3 à Cyberpunk? Je sais pas, je pense qu'ils doivent rester prudents là-dessus et c'est pour ça qu'ils testent un nouveau format aussi, tu vois.
J'ai l'impression qu'ils mettent tous leurs œufs dans le même panier, quoi. C'est-à-dire,
c'est ça.
Cyberpunk 2077 avec un énorme univers, on met tout le pognon dedans. Ouais, et si le jeu marche pas, il se passe quoi.
Bah, justement, c'est pour ça que dans le volet 2017-2021, tu as la diversification avec l'extension de notre noyau de franchise. Bon, on va pas se mentir, c'est The Witcher. Avec voilà du contenu supplémentaire en termes de médias et j'ai vérifié du coup le film The Witcher est prévu pour 2017.
Voilà.
Et donc voilà, il y a des choses comme ça et c'est normal pour un studio qui prend de l'ampleur comme CD Projekt. C'est important de faire de la diversification dans des marchés différents parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens de publier un jeu par an.
Mais surtout très important pour le studio Good Old Games.
Alors a priori, voilà, sur leur planning de release 2016, il y a la sortie d'un jeu AAA qui supporterait totalement Good Old Games Galaxy. D'ailleurs, Good Old Games Galaxy qui permettrait de nouvelles features qui seraient requis par les futurs produits CD Projekt Red. Donc ils ont véritablement envie d'investir cette plateforme-là.
Mm-hmm. Alors, juste un bémol là-dessus, c'est cool tout ça, mais j'espère que ça sera toujours non obligatoire, n'est-ce pas?
Oui.
À savoir qu'on pourra toujours télécharger l'exécutable et voilà, faire ce qu'on veut avec.
Oh bah, a priori, c'est ce qu'ils ont fait avec The Witcher 3, donc...
Ouais, mais après, si tu veux, plus tu mets de features, en fait... Enfin, tu vois, ça je méfie des features qu'on va rendre obligatoires. Enfin, après, je leur fais confiance, hein, mais bon... Je préfère rester vigilant, dirons-nous.
Ouais.
Mais pour revenir à ce fameux jeu de 2016, ça se trouve, ça va être un jeu de Gwent...
Mais carrément... Le jeu de Gwent, ça serait tellement, ça serait tellement le GG assuré en fait. Tu balances ça.
Bah moi je me demande pourquoi ils.
Mais franchement,
ils l'ont pas fait...
maintenant que tu dis ça, j'y crois
je
trop.
Me demande pourquoi
en fait.
Ils l'ont pas fait sur Android et iOS, tu vois. Ça peut faire comme Hearthstone, ça coûte pas cher à développer. Tu balances ça et puis après si ça prend, ça peut être très rentable, je pense, tu vois.
Alors en tout cas concernant Good Old Games, moi j'espère que leur partenariat avec une production AAA va marcher parce que pour le moment je pense que c'est le gros problème qu'a Good Old Games pour vraiment décoller. C'est-à-dire que ils ont pas de gros jeux en fait. Ou alors c'est des gros jeux qui datent de Mathusalem, genre les jeux Ubisoft qui sont vendus une blinde en plus, tu vois. Vraiment c'est ce qui manque à Good Old Games quoi, c'est des gros jeux récents qui soient pas de CD Projekt. Et qui permettent de vendre la plateforme.
Ouais, mais après, c'est aussi peut-être que les éditeurs voient ça d'un mauvais œil, qu'ils vendent des jeux sans DRM et ce genre de choses-là, donc ils vont pas leur donner des gros jeux.
Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis que j'espère que ça va marcher.
Ouais, oui, non,
mais... Parce que ça prouvera par A plus B que c'est la blague, en fait. Et que tu peux très bien faire des grosses ventes sur des jeux DRM free, quoi. Tout simplement. Parce que là, vraiment, ils ont l'air de... En plus de vouloir faire ce partenariat pour le mettre en avant la plateforme Galaxy, qui, pour le coup, est le cheval de Troie pour attirer les utilisateurs de Steam qui, eux... Enfin, en tout cas, les gens qui veulent, si tu veux, un outil qui va permettre de mettre à jour facilement les jeux, etc. Alors, par contre, le seul truc où il va falloir qu'ils bossent, c'est... Alors, Galaxy, je l'ai pas lancé récemment, mais la dernière fois que j'ai regardé, si tu veux... T'es très très loin d'avoir toutes les features que peut proposer un Steam, quoi. Alors certes, il y a des années de dev de retard à rattraper, mais je veux dire, même des features basiques du genre, tu vois, la liste d'amis, enfin, quoi joue ton pote, etc., enfin, ce genre de choses, ça manque. Et c'est pas très très lisible jusqu'à maintenant. Donc, enfin, j'espère qu'ils vont améliorer ça, quoi. Parce que je pense qu'on a tous gagné à avoir un concurrent de Steam qui soit
derrière.
Ah
oui, non, c'est sûr. C'est sûr.
Voilà. J'étais en train de regarder une vidéo sur Witcher Battle Arena pour me demander de faire la news sur GOG, mais franchement, c'est un jeu free-to-play, mais ça donne pas du tout envie, en fait. Après, j'aime pas trop ce genre de jeu-là, mais quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, ouais, quand même, Je comprends pourquoi on n'en avait pas trop entendu parler, quoi.
Bon. On va maintenant parler d'un projet que j'attendais beaucoup. Je sais pas, je vous assure, il y a une malédiction avec moi. À chaque fois que je m'intéresse à un projet de MMO, il est annulé. ce projet, c'était donc EverQuest Next. Je rappelle, EverQuest Next, en gros, c'était projet super ambitieux, avec une IA qui réagissait en temps réel à ce qui se passait dans le monde du jeu et tout, avec en plus une idée, genre, alors on a un autre jeu qui s'appelle Landmark, les utilisateurs de Landmark vont construire des bâtiments et on va les implémenter dans EverQuest Next, il y avait tout un système économique qui était prévu pour ça et tout. Et donc ça a été annulé. Bon, malheureusement c'était un peu prévisible parce que je rappelle que à la base c'était un projet de Sony Online Entertainment, le studio qui a donc été cédé par Sony, qui n'en a plus voulu, qui s'est appelé par la suite Daybreak Games. Et à mon avis, enfin dès qu'ils ont été cédés par Sony, enfin je veux dire dès que Sony les a abandonnés, en gros c'était mort quoi. Mais déjà, en plus, ça commençait à sentir le pâté quand ils ont annoncé que le studio qui s'occupait de la technologie de l'intelligence artificielle bosserait plus dessus. Voilà, ça commençait à sentir le pâté et là, ça faisait plus d'un an qu'on n'avait plus de nouvelles. Donc malheureusement, j'ai envie de dire, je le sentais un peu venir, mais ça me fait toujours chier parce que voilà, enfin, encore un MMO qui avait de belles promesses, en tout cas qui promettait de faire quelque chose d'un peu nouveau. Et qui se casse la gueule et j'en ai marre des MMO qui font tous la même chose, ça me saoule. Voilà. Mais bon, enfin, je veux dire, c'est un cycle. Hein. À chaque fois qu'il y a un MMO prometteur, il y a toujours un truc qui marche pas, quoi. Black Desert Online, ils promettaient un super truc sandbox. Ils ont fait de la merde et ils ont transformé ça en un putain de theme park comme les autres. Bref, hein, c'est de la merde. J'en ai marre des MMO. Je quitte ce monde pourri. Et je m'en jouerai encore de temps en temps à FF14 parce qu'il est cool, mais c'est tout, quoi.
D'ailleurs, les MMO, il y en a pas tant que ça qui marche, quoi. Genre, il y a WoW, Final Fantasy XIV, et après, je pourrais pas t'en citer un troisième, quoi.
Eveline, mais c'est autre chose. Enfin, c'est un autre type.
Ouais, mais c'est Eveline par rapport à Final Fantasy et WoW.
Oui, mais ça marche.
Ouais, mais c'est quand même assez loin par rapport à.
Oui, non, mais je veux dire, on parle de marché, on parle pas de. Si tu veux, Eveline, ils font du pognon avec, ils en font plein, même. C'est pas la question, si tu veux, pour moi. On s'en fout qu'ils aient 4 millions d'utilisateurs. La question, c'est d'avoir des mémos rentables. Et malheureusement, des mémos rentables. Bon, il y en a, hein, mais c'est tous des free-to-play, quoi. Et ce qui me fait un peu peur, si tu veux, dans le marché du MMO actuel, c'est que en dehors de quelques exemples, finalement, ben c'est peuplé de free-to-play, quoi. Voilà. Et on n'a plus de projets super ambitieux qui innovent un peu, qui en tout cas renouvellent le genre, quoi. Et enfin, à chaque fois qu'il y en a un, en tout cas, ça finit par se casser la gueule. Donc on verra. Hein. Bon. ATH.
Ouais.
Tu vas maintenant évoquer Rocket League qui, pour le coup, va rénover sa formule un peu.
Ouais, voilà. Donc, Rocket League va se la jouer LeBron James. Donc, passe du football au basketball. Et puis, c'est à peu près tout.
Voilà, c'est à peu près tout, mais, ça change quand même pas mal le gameplay, quoi. Au lieu d'avoir une cage de foot ou un panier de basket, il faudra marquer et je veux dire en termes de challenge, ça propose autre chose, quoi.
Ah oui, non, ça c'est sûr que bon, ça sera pas le petit panier de basket comme on a l'habitude de voir le panier classique, quoi.
Heureusement.
Sinon, ça serait vraiment vraiment chaud, je crois. Tous les matchs se finiraient à 0-0 et il y en aurait quelques-uns où il y aurait un panier de temps en temps. Non, là vous avez quand même un panier beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus simple de marquer que dans la vraie vie, on va dire. En termes de cercle, mais ça change le gameplay, c'est-à-dire que donc on passe c'est comme si on changeait de sport et de discipline quasiment.
Je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ça reste quand même le même jeu, quoi. Tu changes l'objectif fondamentalement, mais le jeu il se joue pareil, quoi. Après, enfin, tu fais pas rebondir la balle.
Ouais,
enfin,
non, c'est pas du vrai basket. Avec une voiture, ce serait beaucoup plus compliqué, quoi. Mais je veux dire que dans le sens où le panier est situé en hauteur comme au basket et que au foot, tu vois, t'as les cages qui sont au sol. Après, certes, ça reste Rocket League, quoi. Donc, je pense que ça peut être un bon DLC pour ceux qui ont apprécié le jeu de base. Surtout que ça a été un succès quand même de l'année dernière, que les gens ont apprécié ce vent de fraîcheur de l'univers du jeu vidéo avec ce concept de mélange de voiture et de sport. Et celui-là, ça m'étonnerait pas qu'il ait un autre succès, surtout aux États-Unis, quoi.
Moi, en fait, justement, ce DLC, je trouve que c'est hyper malin parce que ce DLC, tout le monde pourra pas y jouer. C'est les gens qui maîtrisent le vol dans Rocket League qui vont pouvoir vraiment pouvoir en profiter. Et justement, dans Rocket League, si tu veux, ça manque de classification en termes de joueurs, parce que moi, typiquement, j'aime bien jouer à Rocket League, mais concrètement, en fait, je suis pas assez bon pour pouvoir faire des vols planés que des gens sont capables de maîtriser. Et une fois que tu gagnes pas mal de matchs, en fait, tu te retrouves avec ces gens-là qui te défoncent à chaque fois. Et ces gens-là, s'ils peuvent les déplacer un petit peu vers ce mode-là, c'est une très bonne idée, à mon avis. Ça leur apportera probablement un peu de challenge aussi. Je suis assez content de l'annonce de ce DLC, parce que je trouve que c'est très très malin de leur part.
Bon, par contre, on n'a pas de date précise sur quand va sortir ce contenu-là. Mais enfin, moi, en tout cas, je suis admiratif de la manière dont ce studio gère sa licence, quoi. Enfin, ils font pas ça n'importe comment. Ils apportent des améliorations par petites touches, mais c'est des améliorations bien senties. Bref, franchement, un studio qui mérite son succès, et j'espère que ça va continuer dans les années à venir, et surtout qu'ils vont réussir à développer la scène e-sport de leur jeu, parce que il y a vraiment moyen qu'ils fassent quelque chose avec ça, quoi. En termes d'e-sport, s'ils pouvaient assurer la pérennité du truc derrière, ils sont peinards, les mecs, quoi.
Mais moi, après, ce qui me ferait peur, c'est qu'ils te font ça à toutes les sauces, Rocket League, golf, etc., et qu'après, ils deviennent une parodie d'eux-mêmes, en fait.
Non, mais quand c'est malin, enfin, en tout cas, pour l'instant, ça va. J'avais pas testé le truc, celle-là, c'était quoi? Ils avaient fait du hockey pour l'hiver. Ça me semblait un peu moins malin, mais ça restait cool, tu vois, en termes d'événements thématiques. Pourquoi pas, quoi.
Voilà. On va maintenant parler de Mirror's Edge et Catalyst. Alors, en fait, si vous voulez, je voulais profiter d'une nouvelle vidéo qu'il y a eu cette semaine pour faire le point un peu sur le jeu. parce que, en gros, il y a une vidéo, un carnet de développeurs qui présentait un peu le jeu, tout ça. Je rappelle, le jeu, il sort en mai, je crois.
Oui, c'est ça.
En gros, là, la vidéo, enfin, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, déjà, c'est que ils présentaient la musique dans le jeu, en fait, à savoir que ils vont faire une musique un peu à la, comment il s'appelait le jeu français, là, à la Remember Me, qui avait été composée par Olivier Desrivières. Et c'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent un peu le bonhomme, Olivier Desrivières, c'est un spécialiste de la musique qui s'adapte aux actions du joueur, en fait. C'est-à-dire t'as pas vraiment une partition qui est composée, elle est pas illustrative, si tu veux, elle accompagne le joueur.
Ouais.
D'ailleurs, je vous invite très fortement à regarder sa conférence qui est disponible sur YouTube, ou même, je crois qu'ils avaient fait une vidéo sur... Afterbeat avait fait une vidéo chez Gamekult sur le sujet, qui est vraiment passionnante, enfin qui résume en gros sa conférence, et c'est vraiment très très intéressant. Et en gros, l'idée, c'est que vraiment, en fonction de l'action du joueur, par exemple, si tu ralentis, la musique va ralentir, si tu commences à donner des coups, elle va avoir plus d'impact, tu vois, ce genre de truc. Et c'est vraiment la musique qui t'accompagne, et déjà ça, je trouve ça cool. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, le projet, je suis de plus en plus rassuré de ce que je vois. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est que j'espère qu'ils vont vraiment mettre le paquet sur la communication, parce que pour le moment, j'ai l'impression qu'il va passer un peu inaperçu, quoi.
Oui, c'est vrai.
Comme pour le premier épisode, quoi. C'est-à-dire qu'un jeu qui va avoir un succès critique, mais qui aura pas de, tu veux, de retour derrière en termes de vente, quoi.
Bah, ça, encore une fois, ça dépend du marketing qu'il y a derrière, parce que pour l'instant, il est pas très impressionnant, mais après, à 2 mois, ça me surprend pas spécialement. Ils vont probablement en balancer beaucoup plus d'ici peu. J'ai l'impression qu'ils commencent à se réveiller déjà là, donc.
Mais après, le jeu, vous l'attendez, vous, ou pas du tout?
Bah alors moi j'attends, mais si tu veux, par rapport au jeu en monde ouvert, etc., j'attends de voir les premiers retours, en fait.
Bah après, faut voir le level design, effectivement, mais enfin, quand ils ont annoncé le monde ouvert, je me disais, est-ce qu'ils vont complètement changer la formule, est-ce que finalement on aura plus Mirror's Edge, tu vois, c'est-à-dire t'auras la skin Mirror's Edge, mais en fait le jeu aura plus rien à voir, et plus j'en vois, plus je me dis, bon ok, c'est du monde ouvert, mais finalement ça a quand même l'air d'être Mirror's Edge, quoi.
Ouais.
C'est pas Assassin's Creed, quoi, avec une vue à la première personne, c'est-à-dire tu appuies sur un bouton et il se passe 15 trucs en même temps, tu vois.
Ouais, après, ils peuvent pas rogner l'ADN du jeu, quoi.
Bah, ils auraient très bien pu le faire.
Ah, hein. Mais dans ce cas-là, tu l'appelles pas Mirror's Edge, tu l'appelles...
tu connais très bien les éditeurs, ça serait pas le premier éditeur à complètement renier l'ADN d'un jeu pour faire autre chose avec, hein.
Ah, mais je veux dire, c'est Mirror's Edge, c'est pas, on va dire, comme Tomb Raider, une licence qui a cartonné à un moment, et puis après, ils ont fait de la merde plus tard, quoi.
Ouais, là, c'est une licence qui a jamais cartonné, donc d'autant ouais, voilà, plus c'est pour faire autre chose, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, la licence n'a jamais marché, donc ils auraient très bien pu choisir de partir dans une toute autre direction, et voilà. Donc moi, je, pour le moment, en tout cas, ce que je vois me rassure. Après, effectivement, tout l'aspect ouvert du jeu me fait un peu peur, quoi. Mandrain, je crois que ça t'attire pas du tout, toi, par contre.
Moi, j'ai adoré Mirror's Edge 1.
Ah, t'as d'accord.
Mais pour l'instant, j'ai du mal à croire que Mirror's Edge 2 va tenir toutes ses promesses, en fait. Comme Mathéa, je suis très prudent maintenant avec les AAA. J'attends vachement les retours des gens, en fait. Ne serait-ce que les tests pro, mais aussi les retours utilisateurs. J'espère vraiment que c'est ce que j'attends de Mirror's Edge 2, quoi. Après, j'ai vu qu'ils allaient essayer quelque chose de nouveau avec le grappin. Mm-hmm. Pourquoi pas? Peut-être histoire de varier un petit peu tout ça. Mais je reste assez curieux, même si je me renseigne pas trop sur le jeu actuellement. Mais j'ai vraiment envie que ça soit un succès et que ça me remette un peu, que ça remette un peu le AAA dans quelque chose d'un peu original, quoi. Parce que les AAA actuels,
Ah là, pour le coup, faut avouer que les jeux de plateforme à la première personne, bon, c'est pas non plus...
C'est voilà.
Bon, et moi, en fait, là où je les attends vraiment en tournant, c'est sur l'aspect combat du jeu. Enfin, pour moi, ça... Ouais. En fait, moi, ce que j'ai pas compris, si tu veux, c'est que je pensais que moi, il fallait carrément le retirer, ce truc. Et en fait, ils en ont rajouté une couche. Donc, alors, si vous voulez le faire très bien, mais faites-le bien, quoi, parce que... Si c'est pour faire un truc à moitié, tu vois, qui est un peu mal implémenté, tu te demandes ce qu'il fout là, bon... Même si, encore une fois, moi, dans un jeu de free running, je vois pas bien ce que vient faire le combat dedans, en fait. Pour moi, ça devrait être essentiellement un jeu d'évitement, quoi. Et pas un jeu où tu défonces un mec. Enfin, bon.
Écoute. Oui, mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'avait gêné dans le premier, c'est que j'aimais pas du tout les phases de combat.
En même temps, elles étaient totalement optionnelles. Hein. Enfin, moi, de mémoire, tu pouvais toutes les éviter.
J'arrive pas à me ressouvenir d'un passage où j'étais forcé de le faire, mais...
Dans le premier, t'étais pas obligé de faire les phases de combat. Je crois que, comme dit Thierry, elles étaient vraiment optionnelles.
Ouais, enfin, moi, le souvenir que j'en ai gardé, c'est vraiment le truc qui ne servait à rien, qui était totalement zappable, donc.
Moi, ce que je me souviens, c'est que, par exemple, sur le chemin, quand tu faisais une action, et qu'il y avait un flic qui était devant toi, je sautais, je mettais un high kick dans la tête, et puis je continuais mon chemin, quoi. Je crois que dans le tuto, il t'expliquait quand même deux, trois trucs pour le système de combat. Mais je l'ai jamais utilisé dans le jeu, au final.
Parce qu'en fait, le problème de mettre des combats là-dedans, c'est que pour moi, ça coupe le free run, quoi.
Oui.
Alors que ça devrait être, c'est le cœur du jeu, finalement. Donc, à moins qu'ils arrivent vraiment à intégrer ça pour, comme tu dis, tu mets une mandale au passage et voilà.
Ouais, c'est ça.
Si par contre on se retrouve genre typiquement la mauvaise idée dans une arène, tu vois et
non, ça serait naze. Par contre, tu vois, ce qui était cool dans le premier, c'était ces phases de course poursuite où t'avais les flics aux fesses et toi tu devais te barrer sinon eux ils te tiraient dessus quoi et c'était fini. Et ça c'était un truc vraiment sympa que j'aimerais bien retrouver dans le 2, mais si tu peux défoncer tout le monde comme Jackie Chan. Il y a pas d'intérêt quoi.
Bon, en tout cas, on vous incite bien évidemment à attendre qu'il soit sorti et à regarder les reviews pour voir ce que les gens disent, hein. Pas comme par exemple les acheteurs d'Hitman qui viennent se plaindre après d'avoir précommandé. Non, parce que là, si vous voulez, en ce moment, je suis assez agacé. Je vois les reviews d'Hitman, je me dis mais tous ces gens là qui se plaignent que le jeu ne fait que 2 heures de durée de vie, ils ont pas regardé. Les articles, etc. Ils sont pas renseignés un peu sur ce qu'ils achètent. C'est parce que ça sert à rien de se plaindre après, tu vois, après coup, quand t'achètes un jeu. Les gens, ils s'en foutent, hein, du moment qu'ils ont ton argent derrière. Donc voilà. Ouais. Attendez que les jeux sortent, ne précommandez pas, voilà, ce genre de choses.
Pour Hitman, tu vois, moi, c'est un jeu que j'ai envie de faire. Mais non. Là, c'est clair et net que j'achèterai mon jeu en 2017 quand il sortira. Genre, parce que la sortie physique est prévue pour janvier 2017.
Il faut que tu laisses l'early access se terminer, j'ai envie de dire.
Non, mais je l'achèterai. Non, mais attends, écoute bien. Ce que je vais dire, c'est que je l'achèterai, mais que si le jeu est fini, c'est-à-dire que c'est pas la saison 1 et qu'après ils nous sortent la saison 2 plus tard sur les mêmes concepts, etc. Parce que genre, s'ils disent que l'année 2016 c'était la saison 1 et que 2017 c'est la saison 2. Bah, même s'il sort une version boîte entre temps et puis après tu dois racheter les suites en DLC. Non, merci.
Voilà, voilà. Mandrain.
Oui.
On va parler de la fermeture d'un studio emblématique. On va parler de la fermeture de Lionhead.
Ouais. Alors, Lionhead, vous savez tous que ça a été un des studios emblématiques de Peter Molineux.
Même si, bon, techniquement, je tiens à rappeler quand même que c'est pas lui qui est à l'origine de Fable.
Absolument.
Je sais plus comment ils s'appelaient les mecs, d'ailleurs. Enfin, c'est dire à quel point ils ont été occultés, mais...
C'est un fondateur, en tout cas. Peter Molineux est le fondateur de Lionhead, enfin, le co-fondateur de Lionhead avec Steve Jackson. Ça a été fondé en 2001, donc il y a 15 ans. Leur premier jeu, c'était Black and White. Voilà. Un God Game. qui a été suivi par une extension Black and White, et ensuite suivi en 2004 par Fable. Et d'ailleurs, c'est Fable qui a causé leur fin, puisque, bon, vous n'êtes pas sans savoir que ils étaient actuellement en train de travailler pour Microsoft sur Xbox One pour Fable Legends.
Le jeu dont tout le monde se fout.
Le jeu dont tout le monde se fout, et voilà, tout le monde s'en fout, du coup, cause, conséquence, Fable Legends s'arrête, Lionhead aussi. On a appris ça cette semaine, c'était le 7 mars. Lionhead va donc fermer le soutien à Fable Legends.
Oui, parce qu'il était en bêta privée, je crois, un truc comme ça.
C'est ça, bêta fermée. Mmh. Donc la bêta fermée fermera officiellement le 13 avril 2016, à 15h, pour être précis. Il y aura plus de clés bêta fermées qui seront envoyées, évidemment. Tous les achats de gold in-game vont être remboursés aux utilisateurs qui auraient acheté dans Fable Legends.
Encore heureux.
Et, voilà, encore heureux, bien sûr. Et donc, évidemment, double annonce, Lionhead Studio a proposé à ses employés sa fermeture.
Voilà, encore un studio historique fermé par Microsoft après Ensemble Studio. Spécialité de Microsoft, j'ai envie de dire. Saut classique. On prend un studio historique, on le ferme, voilà.
Oui,
c'est Microsoft.
Alors, rappelons quand même qu'au-delà de Fable et Black and White, Lionhead, c'était aussi The Movies, un jeu de gestion très sympa. D'ailleurs, JDG a fait une vidéo il y a pas longtemps dessus, que je vous conseille de voir, c'est assez cool. Et c'est vrai que, évidemment, la licence phare de Lionhead, c'était Fable. Donc avec Fable 1, Fable 2, Fable 3, et puis après les autres, concrètement, c'était pas vraiment intéressant.
Mais franchement, je sais pas pour vous, mais je ne comprends pas la politique de Microsoft avec ce studio, quoi. C'est-à-dire que... Mais franchement, qui voulait de Fable Legends, quoi, en fait? Franchement, ouais. Quoi.
Et pour être tout à fait honnête avec vous, je saurais même pas vous refaire le pitch de Fable Legends, tellement je m'en foutais.
Bah c'était un jeu multijoueur free-to-play, quoi, voilà. Ouais. En gros, ils ont vu que les MOBA ça marchait, ils ont essayé de le faire le leur, sauf qu'ils se sont cassés la gueule, quoi.
Et aussi, je sais pas si vous avez vu le tweet de Sony, ils ont tweeté comme quoi ils organisaient des sessions de recrutement et ils seraient ravis d'embaucher les personnes du studio.
Après Kojima, Sony va aux côtés du côté chez Microsoft.
C'est ça.
Bah oui, non mais en même temps c'est normal. Enfin en tout cas ils se servent là où ils peuvent. Mais ce que je trouve impressionnant en fait, c'est que actuellement Microsoft est en galère d'exclus, à tel point que toutes leurs exclus iront sur PC également. Et ils ont des studios qui leur appartiennent et ils sont pas foutus de leur donner des, enfin de leur faire des propositions en fait qui vont plaire au public en fait, ou ne serait-ce que ils sont pas fichus en fait de sortir les doigts et de dire ok, c'est peut-être déficitaire, mais au moins leur prochain projet il va être cool, quoi. Enfin je sais pas, là tout de suite je saurais pas vous donner les développeurs first party que Microsoft a encore, mais je pense pas qu'ils puissent se permettre de fermer un
rare.
Voilà, c'est ça, en dehors de rare, moi j'ai pas d'autres idées.
Moi je serais vous, je me préparerais à une prochaine fermeture aussi, hein. Parce que pour le coup, quand même, je sais pas si vous voyez l'état dans lequel est rare. Enfin, ça met un moment qu'ils font plus grand chose, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, leur dernier projet, c'est le truc de pirate, là. Enfin, ça a pas l'air d'être un projet majeur, en tout cas. Ça me rappelle quelque chose.
Leur dernier projet majeur, c'était rare compilation, les 30 jeux rares qui étaient sortis, là.
Non, mais ils bossent sur un autre jeu aussi.
Ouais, non, mais c'était un pirate, un petit troll de ma part.
Oui, oui. Non. Et enfin voilà, Microsoft ne me fait rien de ses studios, donc à un moment donné, enfin, c'est très énervant en fait, parce qu'ils ont fait pareil avec Ensemble Studio. Enfin, Ensemble Studio, c'est quand même Age of Empires, quoi. Merde.
Ouais.
Ils ont fermé ce studio. Et ça, c'est pareil encore une fois. Ils leur ont fait faire un Halo Wars, bon, médiocre, on va dire. Et ils les ont fermés derrière, quoi.
Et donc maintenant, du coup, en first party, ils ont quoi? Ils ont 343 Industries, évidemment, qui va faire du Halo à vie. Ils ont Rare, qui va évidemment faire de la merde jusqu'à ce qu'ils crèvent la gueule ouverte. Et ils ont Turn 10, qui fait Forza Motorsport jusqu'à ce qu'ils puissent en crever. C'est tout. C'est, voilà, je suis... En fait, c'est... je suis autant pas étonné que Fable Legends soit fermé que... déçu que des talents comme Lionhead a été gâché par une politique de merde. Mmh. Et je suis vraiment ça m'énerve quoi.
Bon après Fable 3, moi de ce qu'on m'a dit parce que j'ai pas pu y jouer, mais c'était pas non plus extraordinaire. Bon c'était un bon jeu apparemment. Hein. Mais c'était pas non plus voilà quoi. Mais justement, enfin quand t'as un studio qui bat un peu de l'aile, enfin je sais pas, t'engages des nouvelles personnes.
Oui c'est ça.
Tu mets les moyens quoi. Enfin, c'est le concept d'un studio, tu vois, quand un studio first party. En tout cas, il faut reconnaître une chose à Sony, ils gèrent autrement leur studio. Enfin je veux dire, tu regardes Naughty Dog, c'est une autre gueule quoi quand même.
Mais là j'ai vraiment l'impression que Microsoft est entré dans une phase où tout ce qui l'intéresse c'est l'effacement du déficit et la rentabilisation de leurs assets en fait.
Voilà.
Et ils ont vu ah bah Fable Legends c'est dans la merde. Ah bah Lionhead ça nous coûte de l'argent du coup. Oh bah salut alors. Et je pense que ça sera pas le dernier à mon avis. Et c'est
je sais plus s'ils remédient à partir de Microsoft ou s'ils sont indépendants.
Non, ils sont indépendants.
Ouais. Non, non, c'est une exclue qu'ils ont payé.
Respire.
Mais bon, après, le jour où Remedy, enfin, le jour où Microsoft arrête d'acheter les licences de Remedy, je sais pas ce qu'ils font, hein, mais.
Ils vont voir Sony?
Ils vont voir Sony, heureusement.
Ouais, ou même, mais ils développent le jeu sur les trois plateformes, sur toutes les plateformes qu'il y a, et puis voilà, ouais, quoi. Ça sera un jeu multi-support, comme on en a vu tant d'autres. Après, Microsoft, je sais même pas quel est le nom du studio qui fait le prochain Gears of War. Vous vous rappelez, il y a un Gear of War 4 qui est censé sortir.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, merde.
Un Gear of War 4 qui, où on avait vu une vidéo à l'E3 qui, ça ressemblait pas du tout à du Gear of War, pour le coup. C'était un rythme assez lent, etc. Alors que Gear of War, c'est
censé... Moi, ça me plaisait, par contre, hein.
Ah, moi, j'ai pas, du tout aimé la vidéo de Gear of War que j'ai vu à l'E3. Par contre.
Ah bon.
Ouais, okay. non, c'était, enfin, après, c'était peut-être le début du jeu ou je sais pas quoi, mais bon, c'était un truc vachement, bah c'est pas c'était un truc classique et puis Gear of War quand même c'est un jeu un peu de brut quoi, tu fonces dans le tas, tu dégommes tout ce qu'il y a, il y a pas de scénario, on s'en fout de ce que les personnages y racontent, c'est marrant quoi.
Ouais mais il y avait alors non mais c'était pas là il y avait c'était pas une question de scénario, c'était je trouvais que l'ambiance en tout cas était chouette quoi.
Non mais moi quand je dis il y a pas de scénario, c'est à dire que on joue pas à Gear of War pour ce genre de choses là. Je veux dire que quand tu joues à Gear of War, tu débranches ton cerveau, tu t'amuses. Et moi, enfin, je sais pas, le jeu qu'on avait vu à l'E3, c'était un jeu quand même assez lent. Et tu vois, il y avait tous ces événements là, comme on voit dans les Uncharted ou bien dans les Tomb Raider avec des scripts. Et je trouve que pour Gear of War, ça marche pas trop en fait.
Bon, bah en tout cas, merci Microsoft, bravo. C'est, je sais pas, vous avez pas un autre studio qu'il ira acheter fermé par hasard, puisqu'apparemment, ah oui, Mojang, tiens, une bonne idée. Vous l'avez acheté 3 milliards de dollars, on ferme.
Non, non, c'était 2 milliards.
Ça, c'est le seul qui est impossible.
Ouais. En tout cas, enfin, ils auront les boules, hein, le jour où ils feront ça, parce que pour le coup.
Bah, ils ont qu'à lancer Minecraft 2.
Voilà.
Non, mais les mecs, ils en ont tellement rien à foutre de Mojang qu'ils leur laissent développer une mise à jour 1.9 pendant un an. Je pense que ça va.
Non, mais en même temps, je veux dire.
Ils s'en sortent bien, Mojang.
Mojang, ils font rien. Ils continuent à vendre des Minecraft par camion, y compris au Japon, quoi. Donc
impressionnant.
Ouais, surtout que ils payent même pas le camion puisque c'est de la démat.
C'est vrai.
Ah non, mais le succès de Minecraft.
Mais c'est vrai qu'il y a une version boîte aussi maintenant.
Ouais, ouais, mais bon.
Attends, mais il est même sur Wii U maintenant ce jeu, quoi.
Ah bon.
Oui,
oui,
oui. Oui, oui.
Putain, mais le truc, ouais, bientôt t'auras Minecraft sur ton frigo, quoi.
Non mais en plus la point 9 je crois de Minecraft c'est il y a pas grand-chose hein de ce que j'ai entendu.
Ça change pas mal de trucs. Moi j'y joue un petit peu en ce moment c'est assez
Ah bon à ce point-là.
En fait ils ont vraiment refondu le système de combat en fait.
D'accord.
Et ça change beaucoup de
choses. Ah il y a un vrai système de combat maintenant, tu veux dire.
C'est bah en gros
avant pour
si
moi
tu...
avant pour moi rien ou ça c'était pareil hein mais
franchement si tu t'équipes pas de bouclier maintenant t'es dans la merde.
En fait c'est un peu la mise à jour Dark Souls quoi.
Oui, j'irai pas jusque là quand même mais ouais
bon messieurs à moins que vous ayez quelque chose à ajouter.
Non là on était en train de digresser déjà donc je pense que
ouais.
C'est l'heure
c'est quand on commence à digresser c'est à dire qu'il faut qu'on
ça, mais ça fait du bien de digresser un tout petit peu de temps en temps.
Allez rendez-vous la semaine prochaine en espérant que l'actu soit aussi chargée que cette semaine. Bye bye à tous,
salut,
ciao.